Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message d'aujourd'hui et les réflexions que je vais partager avec vous c'est des considérations sur faire la fête. Donc mon titre c'est des fêtes et encore des fêtes. Autour de nous on a l'impression qu'il n'y a que ça. Hein, si vous regardez un peu l'actualité, il y a énormément de fêtes. Hein, je ne sais pas, à moins que vous viviez en ermite, mais sinon vous pouvez pas le rater. Hein. On a eu la fête de la musique, il y a eu la fête des mères et des pères, et puis on en rajoute, il y a la fête des mamies, fête de ceci, de cela. Toutes les associations ici en mois de juin concluent leur saison par des fêtes, et ça c'est juste avant les fêtes de l'été, comme vont faire toutes les autres associations qui cherchent à attirer des vacanciers, des touristes, etc. Donc il y a énormément de choses qui se font, et ça a été le sujet de réflexion de ma part pour voir un peu comment nous en tant que chrétiens déjà on pourrait aborder tout ça. Et il y a vraiment un désir de l'être humain de s'amuser, n'est-ce pas vrai? Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est dans tout ce qui concerne l'homme, il y a toujours un projet de Dieu. Il y a toujours quelque chose de Dieu et quelque chose qui est perverti. C'est parce qu'on vit dans ce monde où il y a une bonne chose de Dieu et quelque chose que le diable fait immédiatement pour pouvoir faire en sorte que ce que Dieu a voulu ne puisse pas se réaliser. Donc, quelqu'un a dit « le rire, c'est le propre de l'homme, mais il n'est pas toujours un signe d'intelligence ». Donc le fait de s'amuser aussi, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine, qui a été créée par Dieu. Et en même temps, on va voir ce que ça peut produire. Donc les gens, pour faire la fête, ben, il faut un certain nombre de choses. En général, on ne fête pas avec rien du tout. Hein. Il faut quelque chose. Mais même ceux qui ont peu peuvent aussi faire la fête. Nous avons pendant des années participé à des réunions de l'organisation qui s'appelle les hommes d'affaires du plein évangile, et le principe a commencé par dire partageons un repas. Ça a commencé par des petits déjeuners d'hommes d'affaires où non seulement on prenait le petit déjeuner mais en même temps on partageait sa foi, on donnait des témoignages, etc. Donc l'idée c'était quoi? C'était d'avoir un moment convivial. Le moment convivial pour les êtres humains en général se passe autour d'un repas et d'un partage. Donc est-ce que ceux qui ont peu peuvent aussi faire la fête? Ben oui, on voit que les gens partout dans le monde, même s'ils ont peu, ils arrivent à faire la fête. Et à l'époque aussi, quand on avait des relations internationales avec certains qui étaient dans cette organisation, ils disaient mais nous par exemple en Afrique, quelqu'un nous disait, un des leaders disait, les gens des fois, ils n'ont pas grand-chose, mais ça fait rien. On se réunit en dessous d'un arbre, on partage quelques arachides, et puis chacun témoigne de sa foi, ça fait des réunions extraordinaires où on peut partager de ce qu'on peut vivre avec Dieu. Donc il ne s'agit pas d'avoir beaucoup ou peu. Des fois les gens se mettent, même avec peu de moyens, se mettent dans des pressions énormes, et après, ils sont endettés, ils sont dans des difficultés, juste parce qu'ils ont voulu faire une fête super géniale. Un mariage réussi n'est pas forcément le mariage qui a coûté le plus cher, hein, on le sait. Mais certains, on veut faire un mariage de princesse, on veut qu'il y ait la Rolls, le château, plein de choses, mais qui ne sont pas essentielles. Et donc pour la fête aussi, ce qui est essentiel, c'est pas qu'il y ait beaucoup ou qu'il y ait peu. Par contre, ceux qui ont rien du tout ne peuvent pas faire la fête. Ça, c'est une règle absolue et dure de réaliser que si vous avez rien du tout, alors vous ne pouvez pas. Donc, la Bible nous dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. Donc, il faut quelque chose de basique pour faire la fête. Il faut un départ. Donc, Dieu pourvoit pour beaucoup de choses, et y compris pour la fête. J'anticipe un petit peu, je parlerai tout à l'heure encore quelques mots des noces de Cana. Quand il y avait plus de vin, ben, Jésus a fait en sorte qu'il y en ait un. Et pas qu'un peu, quand on considère les centaines de litres que ça représentait, et il nous est dit dans la Bible que c'était du très bon vin. Mais donc, Dieu peut pourvoir pour la nourriture. Il l'a dit et redit encore, pourquoi vous inquiétez pour la nourriture, le vêtement? Ne vous mettez pas en souci de toutes ces choses. Dieu pourvoira. Donc Dieu va nous donner ce qui est nécessaire aussi pour faire la fête. C'est peut-être étonnant pour certains parce qu'on a l'impression que le monde s'amuse, ça les éloigne de Dieu. Donc les chrétiens ne doivent pas s'amuser et on doit s'ennuyer et montrer par là qu'on est sérieux. C'est une image complètement fausse. Et donc, Dieu pourvoit pour les choses, et même quand on considère dans Matthieu 22, au chapitre 22, verset 1, il nous est dit, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Parabole, donc, c'est une histoire inventée à prendre en comparaison pour expliquer quelque chose de spirituel ou de céleste. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc il explique le royaume de Dieu, c'est une fête géante, une fête royale pour un roi qui fait des noces pour son fils. Voilà le royaume de Dieu. Donc si vous aviez encore des idées décalées ou tordues par rapport à ce que représente le royaume de Dieu et la vie avec Dieu, si c'est triste, si c'est morne, si c'est ennuyeux, vous êtes à côté de la plaque. Il faut que vous renouveliez votre intelligence pour que vous réalisiez que la vraie fête, c'est ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Et donc, il nous est dit que beaucoup d'invités ne voulaient pas venir. Là encore, nous, on témoigne, on essaie d'évangéliser, on fait tout ce qu'on peut. Peut-être, des fois, on le fait maladroitement, peut-être on n'en fait pas assez, mais ça, c'est pas maintenant le sujet principal. Toujours est-il qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir. Et donc, il dit, allez, continuez, les noces sont prêtes, les invités n'étaient pas dignes, mais alors cherchez-en d'autres. Allez dans les carrefours, verset 9, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs s'en allèrent, les rassemblèrent, les trouvèrent, mauvais et bons. C'est pas que les bons qui vont au ciel. C'est seulement ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et par la foi. On n'est pas ici parce qu'on est dans l'église, on est meilleur que les autres. Ce n'est pas vrai. Mais il nous est dit, tous ceux-là ont été rassemblés, la salle des noces fut remplie d'invités. Et le roi entre pour les voir, il aperçut là un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Et il nous est dit, dans la suite, cet homme où la bouche fermée, il ne savait pas quoi dire. Et alors il a dit, jetez-le dehors. On peut dire, oh, c'est quand même méchant ça. Mais il faut savoir que dans le contexte, quand des gens venaient, c'était celui qui invitait fournissait même les habits de fête. Ils n'étaient pas obligés, eux, d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir des super apparats. Ils fournissaient même. Donc, c'est une image du royaume de Dieu. Comment Dieu pourrait-il mettre dehors quelqu'un qui n'avait pas assez pour être comme il faut? Donc, c'est une parabole. C'est simplement pour expliquer que quand vous êtes invité et quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, bien, vous pouvez vous revêtir d'habits de fête parce que c'est Dieu lui-même qui vous revêt. Hein, combien de fois on voit dans la Bible que nous devons nous revêtir de l'homme nouveau et nous dépouiller de l'homme ancien. Donc il y a des choses que nous pouvons faire. C'est valable aussi pour notre mentalité. On peut dire qu'on vient à Christ ou on vient à Dieu comme on est, mais on ne reste pas comme on est transformé dans sa présence. Donc à un moment donné, il y a un changement. Changement peut-être dans notre attitude, dans notre façon de faire. Changement dans la façon dont on va au culte, aux réunions, où on rencontre les autres personnes. Il y a des changements. Et donc, le premier point que j'aurais surtout développé, c'est, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais la fête, c'est vraiment l'idée de Dieu. Considérez, on n'a même pas le temps d'examiner les fêtes de l'Éternel, mais elles sont détaillées dans la parole de Dieu. Combien de fêtes de l'Éternel y a-t-il? Il y a 7 fêtes majeures, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été rajoutées encore. Il y a la fête, allez, je vous écoute. Première, la plus importante, la Pâque. Voilà, la fête du passage pour se rappeler que le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte et a été conduit par Dieu pour se diriger vers la terre promise. Et ensuite, il y a la fête des moissons, il y a la fête des tabernacles, il y a plein de fêtes. Il y a des fêtes, alors, qui annoncent des choses à venir ou des fêtes qui commémorent des choses passées. On peut dire, c'est très important qu'on réalise que le calendrier des fêtes, il rythme l'année. L'année du croyant est rythmée par les fêtes. Pour nous, on doit vivre la vie de résurrection tous les jours. Mais ça fait du bien, je trouve, qu'il y ait un moment dans l'année où nous aussi, on dit c'est la fête de Pâques et on se rappelle de ce qui s'est passé à Pâques. On doit vivre notre Pentecôte, être rempli de l'Esprit et pouvoir être un témoin de Jésus tous les jours. Mais il y a un moment dans l'année, si c'est la fête de Pentecôte, on se rappelle de la première Pentecôte. Et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de choses. Pour les Juifs, par exemple, Yom Kippour. Il y a un moment où on peut, par exemple, dire la fête du grand pardon, de vraiment se repentir profondément, de dire, on se met devant Dieu, pas seulement une fois par an, mais on se met devant Dieu, je voudrais que ma vie soit purifiée, je voudrais qu'il y ait des changements dans ma vie, des transformations. Donc, tout ce calendrier de fêtes rythme l'année, nous permet de nous souvenir des choses que Dieu a fait, et essentiellement, c'est ce que Dieu a fait pour son peuple. Après, il y a des fêtes qui se sont rajoutées, comme par exemple la fête du Pourim, c'était par rapport au livre d'Esther. Donc là encore, il y a eu une délivrance de la part de Dieu du peuple juif qui allait être détruit complètement à Babylone, et ça n'a pas eu lieu. Donc notre calendrier aussi, qu'est-ce qu'on a ? On a donc des fêtes, surtout en France maintenant, on a toutes les fêtes religieuses du catholicisme qu'on a conservées et qui sont sur le calendrier encore et encore comme des marques de croyance d'un certain temps. Donc Pâques, Pentecôte y est, Assomption, nous on y croit moins, hein, c'est évident. Mais donc la Toussaint, des choses comme ça, Noël, même si c'est peu probable que Jésus soit né le 25 décembre, mais ce n'est pas important. L'important c'est qu'à un moment donné on se rappelle qu'un sauveur a été envoyé dans le monde. Et je trouve que c'est bien comme ça. Maintenant, nous avons aussi rajouté des fêtes tout à fait républicaines, comme le 14 juillet. Quelque chose s'est produit ce jour-là, et ça a impacté notre nation. Le 8 mai a impacté notre nation, la victoire de 45, le 11 novembre de la Première Guerre mondiale. Ça fait très longtemps, mais c'était des choses importantes. Donc pour nous aussi, voyons quel est l'impact de la fête dans notre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on fête ? Qu'est-ce que vous fêtez ? Si vous fêtez rien pendant 365 jours, ben je trouve qu'il y a un problème dans votre vie. Vous devez, et vous allez voir, vous devez trouver pour votre équilibre personnel des choses qui valent la peine d'être célébrées, des choses dont on veut se rappeler. On fait toujours un peu le reproche au mari qui ne se rappelle plus la date d'anniversaire du mariage ou des choses comme ça. C'est un peu devenu comme une blague, hein. Il a oublié ou des choses comme ça. Mais il y a des choses, si c'est important pour vous, vous devez le célébrer. Et si vous le célébrez, alors vous entretenez la pensée que c'est important. Vous le marquez sur votre calendrier. Vous mettez un anniversaire de quelqu'un. Pour les enfants, l'anniversaire, c'est très important. Oh, c'est mon anniversaire. On fait la fête. Quand vous devenez adulte, normalement, vous êtes équilibré, c'est moins important. Vous n'êtes plus, moi, j'espère que tout le monde pensera à moi. Mais si vous êtes un être humain normal, vous allez apprécier quand même que des gens pensent à vous. Voyez ce que je veux dire? On a une grande joie et puis on devient un peu raisonnable, mais en même temps, on est touché. Quelqu'un pense à moi. C'est un jour spécial. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le « je suis maintenant le roi de la journée », etc. On en rajoute. Etc. Mais c'est important. À un moment donné, Dieu vous a fait naître dans ce monde. Il y a un dessein pour vous. Et donc, on développe comme ça notre propre calendrier. On décide des choses qui sont importantes ou pas. De ce qu'on veut célébrer ou pas de célébrer. Mais l'idée de Dieu, de la fête, demeure. Et il veut être, et ça c'est important, présent dans nos fêtes. Et totalement présent. Certains ont développé aussi sur le fait que si Noël c'est l'anniversaire de Jésus, comment se fait-il que des gens mettent tellement de moyens pour fêter Noël et que l'invité principal, la personne qui a son anniversaire, c'est comme s'il n'était pas là ou qu'il n'existait pas. Donc là, il y a quand même un décalage. Mais Dieu veut être au centre de nos fêtes. C'est ainsi que on peut regarder ensemble les noces de Cana. Noces de Cana qui sont souvent citées à l'occasion d'un mariage, mais je voudrais partager avec vous deux, trois choses concernant les noces de Cana. Donc on va regarder, si vous voulez, dans Jean 2, dans Jean 2, si nous commençons la lecture à Jean 2, et si nous respectons le découpage des chapitres, des fois, on ne saisit pas totalement tout ce que Jésus voulait dire. Il venait de discuter avec Nathanaël en Jean 1, et il a déclaré, suite à cet échange avec Nathanaël, au verset 51, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter ou descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ça veut dire que Jésus est en train de déclarer, « à partir de maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire se manifester. Vous allez voir les anges. En fait, vous ne les verrez pas réellement, mais vous verrez le résultat du ciel ouvert. » Cette chose n'avait pas lieu, parce que dans l'Ancien Testament, souvent il disait que le ciel était comme de plomb. Hein, et à un moment, le prophète dit même, « Seigneur, si tu déchirais les cieux pour venir. » Vous avez l'impression qu'il y avait ce barrage entre l'être humain et Dieu et que rien ne pourrait se passer. Et il avait besoin que le ciel soit déchiré. Et maintenant, Jésus dit, « Le ciel est ouvert. » Il y a une communication et vous allez voir le résultat de ça. Vous allez voir maintenant des choses se passer, des choses plus grandes que celles-ci, que ce qu'il était en train de faire. Il a parlé à Nathanaël de révélation, il a dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, je vois que tu es un homme sérieux qui étudie la parole de Dieu, etc. et que tu as une soif de Dieu. » Et chapitre 2, trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. En fait, c'est la liaison, ça veut dire que Jésus manifeste une première fois, c'est ce premier miracle à Cana, il manifeste une première fois quelque chose qui est du domaine du céleste. Parce qu'il va prendre quelque chose qui est naturel, de l'eau, et le transformer en vin, ce qui ne se fait pas de façon naturelle. Vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez le mettre dans un tonneau, vous pouvez attendre tout le temps que vous voulez, ça ne donnera pas de vin. Et donc, quelque chose s'est produit, une transformation qui est du domaine du surnaturel. Et le surnaturel, c'est une intervention de Dieu dans notre vie. Donc, nous voulons tous plus de surnaturel, n'est-ce pas vrai? Et nous voulons le surnaturel de Dieu dans nos fêtes. Que ce soit une vraie fête où Dieu est présent et on voit sa gloire se manifester. Il nous est dit, la mère de Jésus était là. Donc on passe sur le fait que le père de Jésus, père adoptif, n'est pas là, parce que il semble qu'il soit passé quelque chose avec Joseph que la Bible ne donne pas d'importance, mais il n'y a plus que la mère de Jésus. Donc la famille de Jésus, c'est sa mère, ses frères, ses sœurs. Mais il nous est dit, Jésus fut aussi invité aux noces. Aussi, ça veut dire qu'il n'était pas l'invité principal. Il a été invité parce que, sans doute que c'était famille, amis, de Marie, sa maman, m'a dit, ben, tu amènes aussi ton fils, et donc du coup le fils amène aussi des disciples, et donc il y avait de plus en plus de monde. Et ils étaient généreux, ils disaient, vous pouvez venir avec vos amis et tout le monde. Donc là, c'est pas que c'était mal organisé, mais tout à coup ils ont été débordés par l'événement. On appelle ça être victime de son succès. Des fois, il y a des choses qui sont organisées, et puis alors il y a tellement de monde, on a du mal à le gérer. C'est pas une mauvaise organisation, forcément. Certains ont dit, oh, c'est ce jeune couple, ils étaient tellement pauvres, ils n'avaient même pas assez de vin pour faire la fête. Non, pourquoi vouloir toujours interpréter de façon bizarre? Mais le vin avait manqué, et on voit que la mère de Jésus est impliquée. Elle se sent impliquée, elle dit, il faut faire quelque chose à ce sujet. Et moi, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Alors elle s'adresse à Jésus, ils n'ont plus de vin. Si elle lui dit ça, c'est qu'elle a une arrière-pensée. Elle dit, tu pourrais faire quelque chose à ce sujet. Et Jésus ne veut pas se laisser mettre sous pression. Il dit, femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, au moins et toi? Ça veut dire qu'il ne veut pas se laisser manipuler dans son ministère. Vous vous rappelez que plus loin dans Jean, il dira, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Mais ayant pris cette distance, en même temps, il se rend compte, c'est le moment maintenant de manifester la gloire de Dieu. Avec ceux qui venaient de déclarer que le ciel était ouvert, des anges de Dieu sont montés, descendus, ils apportent une provision céleste. Dans cette situation, il y a un besoin. Jéhovah Jireh encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et Dieu va faire quelque chose. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc là encore, quelque chose d'extraordinaire de dire. Elle a cette foi en lui. On dit que Marie, elle était troublée, elle se demandait quand ça lui est arrivé, qu'elle était enceinte de Jésus et que les premiers jours, elle était troublée, elle se disait, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais elle a bien su que son fils était quelqu'un d'extraordinaire. Alors elle ne sait pas ce qu'il va faire, mais faites ce qu'il vous dira. Et ça c'est vrai aussi pour nous, en disant, Seigneur, moi je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais il faut que je fasse ce que tu diras. Ou dire à quelqu'un, faites ce qu'il vous dira. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un, fais ce que Dieu te dit de faire. Pas ce que moi je pense qui est bon pour ta vie. Pas ce que moi je dirais, tu devrais faire ceci, cela. Des fois, je trouve les gens sont faciles à donner des conseils à droite, à gauche. Des fois, je suis un peu exaspéré aussi par les conseils médicaux, hein, des gens qui... mais tu sais, moi je connais quelqu'un, il a pris ça et ça lui fait du bien, etc. J'ai toujours envie de poser la question, tu as étudié la médecine ou quoi? Les médecins peuvent se tromper concernant les diagnostics qu'ils font. Alors toi qui n'y connais rien du tout, tu veux dire à quelqu'un qu'il doit prendre quelque chose qui va peut-être lui faire du bien? Je veux dire, et peut-être pas du tout. Donc il y a beaucoup de donneurs de conseils comme ça. Mais l'important c'est qu'on réalise, faites ce qu'il vous dira. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Des vases, pas des petits vases, des grandes cruches, parce que purifier les Juifs, il faut beaucoup d'eau. Les rites étaient complexes. Il fallait se purifier, se laver encore et encore avec tous les gens qu'il y avait à ces noces, avant qu'ils soient tous prêts à prendre le repas. Donc il y avait beaucoup d'eau. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces vases? Rien du tout. Il n'y avait plus rien. Donc il a dit, remplissez ces vases, puis les remplir jusqu'au bord. Et donc, je n'ai plus les chiffres en tête maintenant, mais quelqu'un parle de plusieurs hectolitres, donc plusieurs centaines de litres au final. Puisez maintenant, leur dit-il, apportez à l'ordonnateur du repas, ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. On nous parle de plusieurs choses. On nous parle que Jésus garde le meilleur pour la fin. Et Dieu aussi, pour notre vie et pour l'éternité, le meilleur est devant nous. Et tout à l'heure, on avait un échange concernant le fait que les gens... dans leur corps vieillit, mais Dieu garde le meilleur pour la fin. Et il y a des promesses de Dieu, y compris pour notre forme physique, y compris pour nos vieux jours. Donc soyez en assurés qu'à un moment donné, on peut dire, Seigneur, voilà le problème. C'était très simple sa phrase, ils n'ont plus de vin, c'est ce qui a déclenché tout. Mais il fallait que quelqu'un attire son attention. De la même façon qu'il nous est dit que Dieu connaît nos besoins même avant qu'on lui demande. Et pourtant, la même Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez ? Dieu était conscient de ce qui allait se passer à cette fête. Mais à un moment donné, il fallait que quelqu'un déclenche par cette phrase, ils n'ont plus de vin, déclenche quelque chose. Il faut faire, Seigneur, fais quelque chose dans ce domaine. On pourrait développer encore longtemps, mais je voudrais juste vous rappeler qu'à un moment, Jésus a dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors la joie dans le ciel, elle se manifeste comment? Vous croyez que tout le monde est bouche fermée, il ne se passe rien du tout. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. Je ne sais pas s'il y a de la danse, des chants, nous verrons tout cela plus tard, un peu plus tard. Mais en tout cas, Jésus a dit, il y a de la joie dans le ciel. Et la joie se manifeste pour un seul pécheur qui se repent. Une autre parabole, c'est dans Luc 15, la fête pour le retour du fils prodigue. Le fils prodigue revient, l'image de quelqu'un qui s'est éloigné du Père. Ce n'est pas l'histoire d'un païen qui rencontre Jésus. C'est l'histoire d'un chrétien qui s'est éloigné de Dieu, qui vit dans le compromis, dans le péché, dans le charnel, et qui à un moment donné il nous est dit, il rentre en lui-même, il se retourne vers la maison de son père, il est accueilli par son père, et alors on fait une fête. Et quand on fait une fête pour le retour du fils prodigue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réaction, la jalousie, l'irritation du religieux, du légaliste. Il ne le mérite pas. Il n'a pas mérité que tu tues le veau gras pour lui. Regarde ce qu'il a fait. Il a dilapidé ton bien, ton héritage. On pourrait faire de la même façon la comparaison. Quelqu'un qui est né dans le royaume de Dieu, il est enfant de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Les dons et les talents que Dieu lui a donnés, il les dilapide. Il ne les utilise pas à la gloire de Dieu. Il n'en fait rien. Je ne vais pas faire le procès de certaines personnes très très célèbres et de dire que je ne sais quoi de négatif, mais juste dire beaucoup, par exemple de chanteurs comme Elvis ou d'autres comme ça, ils ont commencé avec un don de Dieu pour le chant qui devait être à la gloire de Dieu, et à un moment donné, il y a eu une dispersion, une dilapidation de dons, de talents, et il y a eu une vie misérable, malgré la gloire des hommes, malgré les millions, malgré les fans, malgré tout ce qu'on veut, mais il y a eu une vie misérable et une recherche de Dieu constante. Certains sont revenus à Dieu, d'autres sont morts dans la misère. Mais donc c'est une illustration de certains qui ont reçu les dons et les talents, et à un moment donné, s'il y a restauration dans le royaume de Dieu, et ça y est, maintenant j'y vais avec Dieu, d'autres sont là disant, mais ils ne méritent pas toutes les attentes de Dieu, ils ne méritent pas qu'on se réjouisse, etc. Mais si, justement, c'est ça comprendre la grâce de Dieu, la faveur imméritée, c'est pas seulement pour le salut, c'est pour nous accompagner tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie. Vous n'êtes pas sauvé par grâce et après, vous restez un chrétien sanctifié par un légalisme. D'accord? Gloire à Dieu pour la grâce de Dieu. On a encore besoin de méditer là-dessus. Et comme je le dis, le Dieu garde le meilleur pour la fin. Les noces de l'agneau nous attendent. Alors tout ce qu'on a vu jusqu'à présent au niveau festivité, que ce soit dans le monde ou dans l'église, ne sont rien en comparaison de ce qui nous attend des noces de l'agneau. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul aussi, que rien ne peut être comparable par rapport à la gloire à venir. Juste encore une deuxième réflexion, s'il y a des gens qui font la fête en s'éloignant de Dieu. Par exemple, le jour de l'anniversaire de Hérode, vous vous rappelez, donc la fille de sa belle-sœur danse de façon tellement séduisante qu'il est complètement subjugué et qu'il dit et fait n'importe quoi. Et à ce moment, de réaliser qu'à ce point, on puisse être fasciné, ça nous montre qu'il y a des puissances de séduction. Ce ne sont pas juste « Oh, elle a bien dansé, elle mérite une récompense. » C'est plus que ça. Il ne savait même plus ce qu'il disait. Même si c'est la moitié du royaume, demande tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire la moitié du royaume? Moitié du royaume, ça veut dire « Je partage le royaume avec toi. » Donc, je me débarrasse de la mère, je prends la fille. C'est ça. Et la maman était la femme de son frère, donc c'est sa nièce. Je veux dire, on bascule complètement dans l'horreur de toutes les implications et de l'horreur de... On coupe la tête de Jean-Baptiste pour lui faire plaisir. Nous, on est tellement habitués à ce récit, c'est comme si on le lisait. Attendez, c'est un homme de Dieu qui était reconnu. Bien sûr, il dérangeait par son discours, mais maintenant, on le fait décapiter juste à cause de la danse de séduction d'une jeune fille. Donc, ça, c'est la façon dont certains peuvent fêter, et là, ça les mène vraiment très loin de Dieu, jusqu'au meurtre de Jean-Baptiste. Donc, on n'a pas besoin de développer et rentrer dans les détails des fêtes païennes, de l'ivresse, de débauche, de tout ce que ça produit. Mais, regardons Exode 32. Exode 32, ça nous amène au veau d'or. On pourrait dire, ah ouais, c'est pas bien, là, ils ont à peine Dieu les a délivrés, maintenant qu'ils adorent le veau d'or. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que quand ils voulaient se faire un Dieu qui marche devant nous, Aaron, quoique ayant des faiblesses, lui voulait sincèrement encore honorer l'Éternel. Même si c'est au travers d'une forme. Mais pour lui, ça reste une fête en l'honneur de Dieu. Vous réalisez ça? C'est important qu'on le réalise. Ils n'ont pas dit, on ne veut pas du Dieu d'Israël, on veut un autre Dieu. C'est pas ça. Ils ont dit, le Dieu d'Israël, celui qui nous a délivrés, on veut lui donner une forme. Alors Aaron, dans son moment de faiblesse, a dit, bon ben, voilà, si ça peut vous aider à mieux marcher avec Dieu, on va faire quelque chose. Ils ont dit, ils ont jeté l'or dans un truc, et puis ça a donné un veau d'or, comme si une forme pouvait comme ça jaillir spontanément. Mais il nous est dit que Aaron a déclaré, j'ai bâti un autel, verset 5, et il s'écriait, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, c'est ça que je voudrais démontrer, que c'était une fête qui devait être en l'honneur de l'Éternel. Et donc, il nous est dit, le lendemain, de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Ils se levèrent pour se divertir. Et cette diversion, cette façon de se divertir, divertissement, a donné finalement une fête que lorsque Moïse et Josué sont descendus de la montagne, ça donnait une impression que Josué a dit, la voix du peuple pousse des cris, il doit y avoir un cri de guerre dans le camp. Alors ça devait être une drôle de fête pour que de loin, Josué pense, ce sont des cris de guerre, il doit y avoir une bataille là en bas, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au départ, quand quelque chose n'est pas sanctifié, quand quelque chose mélange de ce que Dieu veut faire et ce que le peuple désire, au bout d'un moment, il en ressort quelque chose qui est cette démonstration où Moïse a dit, il approchait du camp, verset 19, il vit le veau, il vit les danses, la colère de Moïse s'enflamma et il a jeté les tables, il les a brisées au pied de la montagne. C'est là qu'on en vient aussi à cette réflexion. Qu'est-ce qui peut se passer pour nous en tant que peuple de Dieu? Jésus reprochait au peuple d'Israël dans Matthieu 15, 8. Ce peuple, entre parenthèses, j'ai là un petit complément, il prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Dans les noces de Cana, on a vu que Jésus a multiplié le vin et qu'il était communément admis qu'aux noces, on buvait un peu plus que de raison. Mais il y a quand même une différence dans Éphésiens 5, 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Dans toutes circonstances, jamais Dieu ne va vous demander « Et maintenant, fais un break avec ta spiritualité, ta façon de vivre avec Dieu et accorde-toi un moment où tu vas te lâcher. » Ça n'existe pas devant Dieu. Mais ça ne veut pas dire que dans ta vie, il ne peut pas y avoir la joie et des moments très forts. Au contraire, mais tu peux les vivre en Dieu. Un autre reproche était, parce que c'est des choses qui existent constamment dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 11, 20, l'apôtre Paul écrit, il dit, « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Ça devait donner des drôles de réunions quand même dans l'Église de Corinthe, de dire, il y en a qui avaient rien et qui avaient faim et d'autres étaient enivrés. Et ça pour une agape chrétienne. Mais c'est bien ce que je voudrais montrer par là. C'est qu'une fête qui peut mal tourner et partir dans quelque chose où Dieu n'est plus présent. Il dit, n'avez-vous pas des maisons pour manger, boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu? Voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Et c'est ce qu'on appelle en français un euphémisme, je ne vous félicite pas. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire quand on sait que dans l'Église, il y aurait des ivrognes et on ne se soucie pas de ceux qui ont faim. Donc, encore un mot pour justement les distractions. Il y a deux façons d'être distrait. Il y a le sens négatif, ne pas concentrer sur la volonté de Dieu. On se laisse distraire par toutes sortes de choses. Ça peut être des choses où on a l'impression que c'est très important. On parlait tout à l'heure de la situation de quelqu'un, il a travaillé toute sa vie, mais où est Dieu dans ce qu'on fait? La Bible nous dit, il vaut mieux une main pleine avec du repos que deux mains pleines avec poursuite du vent. Donc, l'activité, c'est une bonne chose. Travailler, c'est un don de Dieu pour beaucoup de personnes, Mais en même temps, si Dieu n'est pas là-dedans, alors on est distrait de l'essentiel. Et ensuite, il y a un sens positif de la distraction. C'est être capable, pour notre propre équilibre, de laisser de côté, de temps en temps, le travail et responsabilité. Parce qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre âme. Notre âme a aussi des besoins. Notre corps, on connaît ses besoins. On a besoin de manger, de boire, besoin naturel, dormir. Si on veut l'entretenir en forme, faire un peu d'exercice. Ça, c'est, on peut facilement le quantifier. Mais pour notre âme, des fois, c'est plus compliqué de savoir quels sont les vrais besoins de mon âme. Mais votre âme aussi, elle a des besoins. Notre âme, c'est l'émotion, c'est l'intellect, c'est la volonté. On ne peut pas demander à notre âme d'être constamment dirigé vers un travail intellectuel intense. C'est pas possible. Il y a des moments où il faut donner du relâche. C'est pour ça que la loi de Dieu était tellement radicale. Un homme a été lapidé dans le peuple d'Israël parce que le jour du sabbat, il s'est promené pour ramasser un peu de bois. Oh, c'est excessif. Il nous semble, c'est terrible. Comment peut-on avoir une loi aussi dure? C'est parce que sinon, nous ne sommes pas raisonnables et on ne prend pas soin de soi-même. Être obligé d'avoir une journée pour consacrer à autre chose que les activités que nous avons toute la semaine, c'est justement faire cette coupure qui permet de recharger nos batteries, comme on dit dans un langage plus moderne. On en a besoin. Notre âme en a besoin. Comme c'est valable pour l'intellect, c'est valable pour les émotions, c'est valable pour notre volonté. Il y a des choses où notre volonté nous permet de nous en sortir et ça nous permet d'atteindre des buts élevés. Et puis il y a des moments, je vous le dis franchement, on a besoin simplement de se reposer en Dieu, de se relâcher, de ne pas être celui qui contrôle tout le temps. On a en même temps besoin d'appliquer notre volonté dans beaucoup de situations de la vie, sinon ça ne donnera rien. Et en même temps, on a besoin de se distraire selon Dieu. La parole de Dieu, ça c'est le dernier point, c'est qu'il y a un temps pour toute chose, la Bible le dit. Et dans Proverbe 8, 22, il nous est dit « L'Éternel me possédait au commencement de son activité ». Dans le Proverbe 8, quelle est la description de ce dont nous parlons ici? C'est la sagesse. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité ». Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde. Et c'est là que nous comprenons qu'il y a une superposition entre la sagesse et entre la personne de Jésus lui-même. Le Fils de Dieu n'a pas été créé. Il a été mis au monde par son Père céleste. C'est un des mystères de la Trinité. Quand il n'y avait pas encore de mer, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne se formaient, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Jésus était là à ce moment-là, au début de la création de toute chose. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, ce qui nous parle que la terre était ronde et non pas plate, qu'il savait déjà du temps de la parole de Dieu dans les proverbes et qu'après, l'Église, en des temps d'ignorance, a pensé qu'il y avait le centre du monde qui était la terre et que tout tournait autour. Donc il dit, lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé le cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il a placé les nuages en haut et les sources de l'abîme ont jailli avec force. Lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords. « Je faisais tous les jours son plaisir. » Et là, vous imaginez exactement comme un être humain, une famille. Le père est là et son fils, petit, a été mis au monde. Il est en train de grandir. Il fait le plaisir de ses parents. Et qu'est-ce qu'il fait? « Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui. » Alors là, je pense que ça peut être révolutionnaire pour beaucoup de personnes, qu'il puisse y avoir cette notion que le Fils de Dieu, Jésus, est en train de jouer comme un enfant jouerait. Parce que c'est de la même façon que Dieu a inventé la fête, il a inventé aussi le fait de jouer. Il a inventé l'amour, la joie, la paix, la bonté. Toutes ces choses sont des créations de Dieu. Donc là aussi, autant que c'est pour la fête, il jouait dans le monde, sur sa terre, trouvant mon plaisir parmi les hommes. En étant parmi les hommes, parmi la création de Dieu, parmi les créatures de Dieu. Donc quand on dit il y a un temps pour toute chose, il y a aussi un temps pour la fête et il y a un temps pour le jeu. Parce que votre âme en a besoin. Il y a des choses auxquelles les grandes personnes ne jouent plus, parce que ça ne les intéresse plus, mais il y a des choses qui ont été préparées ou qu'on peut faire et qui vont faire du bien à notre âme. Et rappelez-vous cette exhortation dans Hébreux, ça fait partie de ce repos dans lequel Dieu veut nous faire entrer. Et c'est le Saint-Esprit qui dit dans Hébreux 3:7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et un peu plus loin, il nous est dit au chapitre 4, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Il faut faire des efforts pour entrer dans son repos. C'est important, il faut se détacher de certaines choses à la vie, se détacher de certaines distractions, de certaines obligations, pour entrer dans un repos de Dieu, où alors tout prend son sens. Il y a une place pour toute chose. Il y a une place pour la fête, il y a une place pour le jeu, il y a une place pour le repos, il y a une place pour de nouveau être plus en forme, pour de nouveau faire nos responsabilités, nos activités, le travail, ce qu'on veut faire, parce qu'on est aussi, et ça ne change pas, on est ouvrier avec Dieu. Donc il y a des bonnes œuvres qu'on veut pratiquer, d'accord ? Mais si on n'est plus en état de les faire, parce qu'on est dans le burn-out, qu'on est totalement épuisé émotionnellement, alors on risque de ne pas pouvoir servir Dieu et de pouvoir expérimenter, hélas, la dépression. Comme l'a vécu le prophète Élie, au bout d'un moment, il s'est caché dans la caverne, il a dit « j'en ai marre, je ne veux plus rien savoir, ça ne marche pas, je veux juste encore mourir ». Dieu est allé le visiter dans la caverne, a dit « mais qu'est-ce que tu fais là, dans la caverne ?» J'ai dit « je travaille pour toi, mais tu n'es plus en état, tu t'es laissé impressionner, tu t'es usé, tu t'es fatigué, tu as été impressionné par les paroles de menace de la reine Jézabel, et puis voilà, et il dit, tu vas me rendre encore un service, tu vas aller chez ton successeur Élisée et tu vas encore transmettre quelque chose de ma part. Donc il a encore rendu service. Mais on voit que c'est pas des choses à prendre à la légère parce que des gens très spirituels, puissants prophètes ont pu expérimenter ça. Donc faisons du bien à notre âme. On sait que la fin des temps est proche et 1 Pierre 4:7 nous dit soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Vous ne savez pas dire que vous devez vivre une espèce de vie de moine maintenant, retiré dans un monastère, vous n'allez faire que prier nuit et jour et ne plus participer à la vie. Il est dit, puisqu'on a vu qu'il y a un temps pour toute chose. Donc soyez sobres, il est dit. Sobriété, ça veut dire, ça veut pas dire se priver de tout, ça veut dire être raisonnable dans ce qu'on fait. Et faisons du bien à notre âme. Peut-être on a besoin même d'apprendre à faire ça. On ne sait pas. Il faudrait qu'on prenne du temps pour dire, mais qu'est-ce qui me fait du bien vraiment? Qu'est-ce qui fait que j'ai un moment de détente, je peux dire, ça m'a fait du bien. Il y en a qui croient qu'ils font du bien à leur âme en accumulant, comme dans Luc 12, 18, celui qui avait des grande récolte, voilà ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grand, toujours plus, amasser, j'amasserai toute ma récolte, tous mes biens, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Lui parle à son âme, mais son âme, c'est pas juste le manger et le boire, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais pourquoi il le fait pas tout de suite? Il avait déjà ce qu'il lui fallait. Donc c'est une illusion, parce que Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu auras préparé pour lui, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc là encore, pour vos devoirs à la maison, posez-vous la question, qu'est-ce que c'est être riche pour Dieu? Peut-être on a des réponses vite fait, mais peut-être on a besoin de creuser cette question. Seigneur, je veux être riche pour toi. Qu'est-ce que c'est être riche pour toi? Donc, consacrons-lui nos joies, de loisir et un chant dit « Fais ton Dieu avec joie ». Dieu aussi, non seulement il veut être dans nos fêtes, mais il y a des moments, et le culte particulièrement, ça doit être où on lui fait la fête, pour lui, pour le réjouir, pour réjouir le cœur du Père, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. Il veut avoir une relation avec nous au niveau de l'esprit. C'est la chose la plus élevée qu'on puisse faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois que c'est tout un chant entier, hein. C'est pas juste une chose ponctuelle, mais quelque chose qui doit nous accompagner tout au long de notre vie. J'espère que ça nous permettra aussi de mieux participer aux fêtes des autres, parce que de la même façon que Jésus était invité et présent à des noces, il a été une source de bénédiction. Donc là aussi, soyez une source de bénédiction pour un anniversaire ou pour ailleurs, et qu'on sache, ça nous fait du bien que tu sois venu aujourd'hui et de vous d'apporter une part de Dieu et de voir la part de Dieu aussi dans les échanges que vous pouvez avoir. Et rappelez-vous que le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.